Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
1, la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Mardi 18 novembre 2025, il est 6h avant minuit et vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab. Quelle bonne idée, en 88.4 à Rennes et grâce à Radio Boa dans toute la Bretagne. J'en profite pour faire une petite auto-promo. Le mardi 25 novembre, ce mardi donc, Syllab organise un atelier de création radiophonique en mixité choisie, donc pour les femmes et les minorités de genre. Ça se passe au Diapason sur le campus Beaulieu de l'Université de Rennes. C'est gratuit et ce sera autour de la thématique femmes et sciences. Les créations sonores proposées par les participantes seront diffusées le 8 mars 2026 dans le cadre de la journée de lutte pour les droits des femmes. Pour s'inscrire, il vous suffit d'envoyer un mail à commission-antisexisme@proton.me. Je le rappelle, cet atelier est réservé aux femmes et minorités de genre. Tout de suite, le flash de Roman.
Au moins 20 000 Ukrainiens enlevés de leur famille et conduits de force en Russie. La Fondation Émile a témoigné de la situation hier lors d'une conférence de presse à Paris, équivaut à Vladimir Poutine d'être poursuivi par la Cour pénale internationale. Plusieurs enquêtes ont révélé que ces enfants subissent une politique de russification forcée. Les plus jeunes changent d'identité avec des nouveaux noms et des nouvelles familles. Les plus âgés sont envoyés dans des camps de rééducation et sont endoctrinés à la propagande pro-russe. L'organisation dénonce aussi le détournement des fonds d'aide à ces enfants. Total Energy dans la tourmente. Une plainte pour complicité de crimes de guerre, torture et disparition forcée a été déposée à Paris auprès du parquet national antiterroriste, a annoncé aujourd'hui l'ONG allemande European Center for Constitutional and Human Rights. Pour mieux comprendre cette plainte et son contexte, Estelle revient sur la situation.
Cabo Delgado, au nord du Mozambique, est une région riche en gaz naturel, ce qui attire de gros investisseurs comme Total Energy. Mais voilà, la province est extrêmement instable. Depuis 2017, une insurrection menée par un groupe islamiste appelé Al-Shabaab ou ASWJ y sévit dans la région. Ce groupe est lié à l'État islamique. L'armée mozambicaine a eu du mal à contenir le conflit seul. Pourtant, ça n'a pas empêché Total Energy de lancer son projet.
Et quel est son projet, Estelle ?
Depuis 2019, Total a investi 20 milliards de dollars pour exploiter le gaz naturel de Cabo Delgado. Le groupe est l'actionnaire majoritaire du projet à hauteur de 26,5%. En 2021, face à des attaques djihadistes, Total suspend ses activités et déclenche une clause de force majeure. Le site est alors convié à la Joint Task Force, la JTF, créée en 2020 et composée de forces armées mozambicaines. Des forces avec lesquelles Total avait signé un accord prévoyant un soutien logistique et une aide alimentaire sous condition du respect des droits humains. En 2023, Total a mandaté Jean-Christophe Ruffin, médecin chez MSF, pour évaluer la situation humanitaire et les droits humains dans la région suite à l'attaque djihadiste. Mais cet accord est rompu en octobre 2023.
Et pourquoi cette plainte ressurgit aujourd'hui ?
Total Energy est visée à Paris pour des faits datant de 2021 sur le site de son projet gazier alors à l'arrêt. L'ONG allemande ECCHR s'appuie sur de nouveaux documents obtenus auprès des autorités néerlandaises, montrant que Total et son prestataire de sécurité étaient conscients dès mai 2020 des risques de violation des droits humains par les forces armées locales. Selon l'ECCHR, Total aurait financé et soutenu matériellement la JTF alors que cette dernière aurait détenu, torturé et tué des civils entre juillet et septembre 2021 à l'entrée du site gazier. Lors de la contre-offensive pour reprendre le contrôle de Palma à l'été 2021, des soldats postés sur le site auraient enfermé entre 180 et 250 hommes dans des conteneurs. Ils les accusent alors de soutenir les djihadistes. Pendant 3 mois, ces hommes auraient été battus, affamés, torturés. Seuls 26 d'entre eux auraient survécu.
Pourtant, Total Energy était au courant.
En effet, Clara Gonzalez, directrice du programme Entreprises et droits humains à l'ECCHR, déclare que Total Energy savait que l'armée mozambicaine était accusée de violation des droits humains et de crimes de guerre, mais a décidé de soutenir la Joint Task Force pour sécuriser ses opérations.
Où en est l'enquête aujourd'hui ?
L'ONG allemande ECCHR affirme aujourd'hui que Total Energy a soutenu la JTF, même après ses exactions, tout en ayant connaissance des graves violations commises par le groupe à proximité de ses installations. L'entreprise aurait fourni aux soldats des logements, de la nourriture, du matériel et leur aurait verser des primes. L'ONG s'appuie sur des documents obtenus auprès des autorités néerlandaises. Il s'agit notamment d'échanges entre des agences de crédit à l'export public, Total et son prestataire de sécurité. Ces échanges évoquent dès 2020 des risques d'atteinte aux droits humains par les forces armées locales. Une première plainte avait déjà été déposée en 2023 par des survivants et proches des victimes de l'attaque d'Al-Shabaab à Palma. En mars 2025, le procureur de Nanterre a aussi ouvert une enquête préliminaire pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger.
Cette plainte survient alors que le géant français des hydrocarbures avait annoncé le 25 octobre son intention de relancer ce méga-projet baptisé Mozambique LNG, estimé à 20 milliards de dollars. Le redémarrage prévu pour un début de production en 2029 reste toutefois suspendu à l'approbation du gouvernement de Maputo pour une compensation de 4,5 milliards de dollars liés au retard. Une journée sans IA, ça donne quoi ? Une énorme panne a touché aujourd'hui le géant des services informatiques Cloudflare. Flare, c'est une entreprise qui propose entre autres des services d'optimisation des performances des sites web. Sont concernés par cette panne de nombreuses intelligences artificielles, dont ChatGPT, Mistral, DeepSeek, Claude, mais aussi le réseau social X, Spotify, Doctissimo, Feedly, Canva, Marmiton, Amazon Web Services et certaines presses comme Actu.fr et Reporters sans frontières. La panne s'est déclenchée ce midi vers midi et demi. Les sites web ont retrouvé leur fonctionnement petit à petit dans l'après-midi. Selon l'entreprise, la panne serait liée à un pic de trafic inhabituel. C'est comme un top départ à la campagne municipale. Aujourd'hui a commencé le 107e congrès des maires au Parc des Expositions à Paris, un événement s'articulant autour d'un thème, liberté. Au cœur des discussions, les alertes des élus locaux sur la réduction de leur marge de manœuvre, tant sur le plan politique que budgétaire. Le congrès des maires, en quelques chiffres, c'est 2 journées, 12 000 élus locaux, dont 1 000 ultramarins, 2 000 invités et une soixantaine de débats et d'ateliers. Sont prévus à l'ordre du jour sécurité, transition écologique, accès à la culture. Une dizaine de ministres et de ministres délégués seront présents et présentes aux côtés d'Emmanuel Macron. On parle d'accès à la santé, au parc des expositions, mais aussi sur nos téléphones. Depuis aujourd'hui, la carte vitale est désormais disponible au format numérique. Testé dans 23 départements depuis 2023, le dispositif s'ouvre désormais à tout le monde. Alors comment installer cette nouvelle carte ? Il suffit de télécharger l'application Carte Vitale, de scanner votre carte matérialisée et votre carte d'identité et de faire une vidéo de reconnaissance faciale. Il suffira d'attendre 48 heures qu'un opérateur vérifie votre visage et votre pièce d'identité. Autre option, passer par l'application France Identité. C'est plus rapide pour celles et ceux qui l'ont déjà installée. D'après l'assurance maladie, cette carte numérique permettra aussi de mieux suivre les remboursements. Un détenu de la prison de Rennes-Vezin s'éclipse au planétarium alors qu'il participait à une visite culturelle au champ libre. L'activité a eu lieu dans le cadre de la fête de la science. 6 prisonniers étaient présents, encadrés par 3 accompagnateurs et accompagnatrices. Le détenu, âgé d'une trentaine d'années, a été condamné pour fait de vol à répétition. L'homme est recherché depuis 3 jours et devait être incarcéré jusqu'en mars 2027. Le programme « Viens, je t'emmène » se déroule à Rennes. Pendant 2 semaines, des associations, des résidences seniors, des lycées ainsi que les services de la ville et du CCAS de Rennes proposent une centaine d'actions de prévention à destination des personnes âgées. Parmi les structures mobilisées, la Maison des aînés et des aidants. Leur objectif, lutter contre l'isolement social, faciliter l'accès aux droits des seniors et accompagner les proches aidants des personnes âgées. 2 fois par semaine, la Maison des aînés et des aidants de Rennes organise un café détente. L'odeur du café flotte dans l'air. Dans le brouhaha des discussions, Nicole et Odile font connaissance.
C'est la première fois que vous venez ?
Ah non, moi ça va faire un an.
Objectif, créer du lien, échanger autour des différentes activités proposées et surtout, limiter l'isolement social des personnes âgées.
J'ai pris sur moi et je suis venue frapper à la porte en fait, oui, parce que je vais dépérir quoi. C'est ça, c'est carrément, ça va être la dépression.
Parce que quand on est 2 ou 3 jours sans parler...
C'était des mois complets sans parler. C'est ça qui m'a fait bouger parce que je me dis je peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Je m'ennuie, j'ai jamais connu ça.
Selon le baromètre des petits frères des pauvres, 750 000 personnes âgées seraient en situation de mort sociale. Catherine accompagne son père, Jean, au café détente. Il se retrouve seul pour la première fois depuis l'hospitalisation de son épouse.
Je fréquente peu de personnes. C'est ma fille, Catherine. C'est grâce à elle que je suis venue là, parce qu'elle voulait me sortir absolument. Quoi.
Je ne veux pas le savoir seule, à la maison, à ne rien faire.
Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses intéressantes pour moi. Il va falloir que je revienne. Quoi.
Il y a les activités et les événements destinés aux aînés, mais aussi les accompagnements pour les aidants, ces proches qui, au quotidien, soutiennent leurs parents, leur épouse ou leur époux. Soisig Ghislain, directrice de la Maison des aînés et des aidants.
On a à peu près un aidant sur trois qui ne se reconnaît pas comme tel. On identifie déjà un isolement social, émotionnel, institutionnel, une difficulté à identifier les ressources, les acteurs qui pourraient les aider au quotidien, puisqu'on a à peu près 70% des aidants qui n'identifient pas les ressources. À côté de cela, on a aussi un épuisement psychologique, physique.
Le statut d'aidant n'est reconnu dans la loi française que depuis 2015. Pour Agnès Rigutot, c'est une avancée importante, mais il reste encore beaucoup à faire, notamment sur le plan administratif. Elle s'occupe à temps plein de son mari Giovanni, atteint d'une maladie apparentée à Alzheimer.
Difficile, c'est de se souvenir de ce qui m'a été dit.
La charge mentale, elle est forte. Donc il y a des jours, c'est bien, ça va, c'est léger. Et puis il y a des semaines, ben, la fatigue, le temps, les problèmes supplémentaires. Oui, si moi je ne suis pas bien, mon mari émotionnellement, il va être très mal. Et donc comme il va être très mal, eh bien il ne va plus se souvenir, il va se tromper et donc je dois rattraper les choses. Mais aidant, c'est un travail, quoi. Je comprends pourquoi ils reconnaissent maintenant un arrêt pour les aidants de 6 mois et qui est rémunéré. Ouf, il était temps.
À noter que les cafés détente sont proposés toute l'année. Ils ont lieu tous les mardis et jeudis de 15h à 17h à la Maison des aînés et des aidants de Rennes. Un reportage demain.
La radio sauvage.
Vous venez d'entendre environ 4 virgules à la fois. Je t'en prie, Roman, reprends donc.
Je disais un reportage de moi. La Maison des aînés et des aidants propose 2 activités dans le programme Viens, je t'emmène. Viens, je t'emmène au café des tentes et viens, je t'emmène au bal du quartier. Et le beau temps aussi s'est fait la malle. Il est temps de ressortir gants et bonnets parce que demain, ça va cailler.
Glagla.
Depuis lundi, les températures ont chuté en Bretagne avec les premières gelées et des minimales autour de moins 1 degré. Et ça ne va pas s'arranger demain et jeudi. De la neige est attendue avec des températures comprises entre 2 et 9 degrés mercredi et entre 1 et 4 degrés jeudi. Prudence sur les routes, ça va glisser.
Mais merci Roman, à la semaine prochaine pour un nouveau flash.
À la semaine prochaine.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Lafken tient le micro pour l'interview de ce soir.
Oui, et que peut l'Europe face à la guerre et au bouleversement géopolitique actuel ? C'est la question qui anime les champs libres pour ce mois de novembre. Débats, rencontres, concerts, pour la fin de ces dialogues européens, les champs libres annoncent des temps forts jusqu'à dimanche. Vous l'avez compris, aujourd'hui on parle politique, guerre et Europe. Et pour nous accompagner dans ce temps d'échange et de réflexion, nous recevons 2 invités ce soir. Romain Huette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en sciences de la communication à l'université de Rennes 2. Vous vous définissez comme ethnographe, spécialiste des formes contemporaines de la violence, cofondateur du podcast Craquer l'époque. Vous collaborez avec les Champs Libres cette année, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui. Donc Craquer l'époque, c'est un podcast qui cherche à raconter un peu le monde et à sortir des purs états de déploration, c'est-à-dire essayer de s'inspirer mutuellement sur ce qui existe.
Et à vos côtés, Vincent Pérez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint des Champs Libres qui accueille ces fameux dialogues européens. Est-ce que, pour commencer, Vincent Pérez, vous pourriez nous expliquer en quoi consistent ces dialogues européens ?
Les dialogues européens, c'est la 2e édition et cette manifestation, elle cherche à s'appuyer sur ce qui nous relie entre le Grand Ouest de l'Europe et puis l'Est de l'Europe avec... l'idée de se dire on est à un moment où l'idée de l'Union européenne ou l'idée de l'Europe tout court est assez frontalement attaquée sur la question démocratique, il y a des nouvelles menaces qui arrivent et donc on cherche à s'appuyer sur tout ce qui nous relie, tout ce qui nous rapproche en essayant de s'intéresser nous à ce qui se passe à l'Est en faisant venir des grandes voix aussi européennes et en se disant ensemble collectivement à quoi nous tenons tous ensemble et qu'est-ce qui peut nous rapprocher ou aussi même nous diviser. Mais c'est vraiment cette idée d'échange culturel entre l'Est et l'Ouest.
Et naissent de quoi ces dialogues européens quand? Parce qu'on a la guerre en Ukraine qui marque peut-être le début de ces événements-là.
Exactement. La première édition, elle est née en fait d'une initiative de l'Institut français, qui est l'organe culturel de la France à l'étranger, et qui a monté toute une série de rendez-vous partout en Europe suite à la guerre en Ukraine, donc en 2022, suite à l'invasion russe, en se posant ces questions-là, justement, du débat d'idées à l'échelle de l'Europe. Et il y a eu plusieurs rencontres qui ont eu lieu à Vilnius, à Madrid, à Amsterdam, etc. Et il y avait une rencontre française qui a été proposée, et on l'a accueillie à Rennes l'année dernière pour la première édition des Dialogues européens. Et on s'est rendu compte à l'occasion de cette première édition qu'il y avait beaucoup de choses qui existaient déjà, de relations. Il y a l'association Bretagne Solidarité Ukraine ici à Rennes qui est très active. Je voyais hier qu'il y a des pêcheurs bretons qui ont été reçus par Zelensky à l'occasion de sa visite en France parce qu'ils envoient des filets de pêche sur le front pour pouvoir se protéger des drones. Et donc il y a énormément d'initiatives de rapprochement et donc... Face à ce bouillonnement d'échanges, après cette première édition, on a trouvé que c'était intéressant de continuer et de faire une deuxième édition.
Et donc, pourquoi les Champs Libres? Les Champs Libres ont fait la demande pour recevoir cet événement-là?
C'était un échange qu'on avait eu avec l'Institut français à ce moment-là. On avait plusieurs projets ensemble et on a trouvé que c'était intéressant de le faire ici à Rennes parce que on est aussi un endroit qui est les Champs Libres, identifié à l'échelle nationale sur le débat d'idées, sur le dialogue aussi. Et donc ça pouvait être intéressant de le faire à Rennes.
Et pour cette dernière semaine, l'emploi du temps, il est chargé. Vous accueillez différentes personnes et différentes thématiques, architecture, Pologne, empirisme. Est-ce que vous pourriez nous parler de la programmation un petit peu de cette semaine?
Alors en effet, il y a plusieurs rendez-vous entre demain soir jusqu'à dimanche. Demain, on va parler de la reconstruction avec l'École nationale supérieure d'architecture de Bretagne. Sur la reconstruction après la guerre, avec beaucoup d'architectes, des architectes aussi qui viendront d'Irak, et donc pas que de l'Europe, mais aussi la représentante de l'architecture en Ukraine. Jeudi, la Pologne, avec l'idée de se dire que la Pologne, elle a un rôle pivot aujourd'hui, et donc c'est intéressant de regarder l'histoire longue de ce pays-là. Vendredi, on va parler photojournalisme avec Guillaume Herbeau, qui est un grand, grand photojournaliste qui est allé en Ukraine au moment de Tchernobyl. Puis ensuite, il a tout couvert en Ukraine, Maïdan, l'invasion de la Crimée et puis évidemment l'invasion en Ukraine de 2022. Et puis samedi et dimanche, là il y a deux rencontres prévues le samedi, deux rencontres prévues le dimanche. Samedi on sera en partenariat avec la revue Le Grand Continent. On va vraiment parler là aussi géopolitique sur est-ce qu'il y a le retour des empires à l'heure actuelle. Samedi on va parler aussi d'une rencontre, mais je laisserai Romain en parler parce que c'est lui-même qui va l'animer. Et puis dimanche... on va parler plutôt mémoire européenne. L'Europe a été divisée au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il y a des mémoires qui peuvent être divisées, des mémoires qui peuvent être partagées. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous relie? Est-ce que c'est le mur de Berlin, par exemple? Qu'est-ce qui fait la mémoire européenne? Et pour terminer, un documentaire dimanche avec Zelensky sur un portrait de Zelensky fait par Ariane Chemin et Yves Jelan, qui est un grand documentariste. Et ce sera animé par Stéphane Suran, qui est le correspondant de Libération à Kiev, et donc qui pourra nous donner aussi son point de vue et nous faire un retour aussi de ce que pensent les Ukrainiens de ce président aujourd'hui. Et puis juste une dernière chose, excusez-moi, l'association Solidarité Bretagne-Ukraine nous lira aussi des témoignages et des lettres d'Ukrainiens depuis le début de la guerre, et ça ce sera samedi après-midi à la bibliothèque.
Et du coup, effectivement, il y a du grand monde. Là, je pense aussi à... Alors, je ne veux pas écorcher le nom, mais Maya Salkic-Burazerovic, directrice du Sartre, le théâtre de la guerre de Sarajevo. Et aussi Pierre Buller, ancien ambassadeur de Pologne. Comment est-ce que vous programmez ces thématiques et comment vous choisissez les intervenantes, les intervenants pour cette semaine?
Alors, en effet, là, vous avez cité deux noms. Nos choix, ils se font avec une volonté d'essayer d'avoir des personnes aussi étrangères. Par exemple, donc, la Maya dont vous avez parlé, elle vient directement de Sarajevo, où elle dirige le théâtre de la guerre à Sarajevo. C'est un théâtre qui a été créé pendant la guerre en 1992 et qui existe encore aujourd'hui et qui viendra sur la rencontre sur les mémoires européennes. Et on choisit donc en fonction de notre idée, c'est avoir le plus possible de personnes aussi qui viennent de l'étranger, des gens aussi, des Français pour certains qui vivent sur place et qui vont pouvoir témoigner. Après, nous, on a des équilibres aussi de parité, parce qu'on trouve que c'est important d'avoir des tables rondes à parité. Et puis, on échange entre des gens qui sont des universitaires, qui réfléchissent sur les questions géopolitiques, les questions historiques, et puis, si possible, aussi des gens qui sont dans le journalisme ou dans le témoignage et qui reviennent directement d'Ukraine. Il y a des gens, notamment dans la table ronde qu'animera Romain, qui reviennent très récemment d'Ukraine.
Et justement, pour finir un petit peu sur cette programmation, et c'est bien que vous abordiez la question de l'Ukraine, il y a de tout, mais l'Ukraine, c'est un sujet central, enfin en tout cas le conflit russo-ukrainien. Vous l'abordez comment du coup cette thématique? Parce qu'il y a un petit peu de tout public. C'est quoi votre manière d'apporter de la connaissance sur ce sujet-là pour cette semaine?
Alors, les dialogues européens ne parleront pas que d'Ukraine. Hein, je vous ai donné quelques exemples, parce que l'idée, c'est vrai que c'est né de ce moment-là. Mais depuis, on a bien vu les échanges géopolitiques, la manière dont l'Europe doit se positionner. Ça interroge plein de choses qui vont bien au-delà de l'Ukraine. Et donc on essaye d'avoir des angles assez différents, qui peuvent être des angles plutôt de géopolitique, des angles aussi de témoignages sur de l'échange culturel, sur comment on vit la guerre, donc c'est des entrées assez différentes en termes de contenu. Et puis après, on est sur un moment de débat d'idées. Et nous, on ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent penser et comment il faut penser la guerre en Ukraine et ce qu'on doit faire aujourd'hui du point de vue politique. En revanche, on invite des gens qui ont réfléchi sur le sujet, qui vivent sur place, pour certains, peuvent nous faire des retours assez directs. Et puis, vous pouvez les écouter, vous faire votre propre point de vue, et puis aussi échanger avec ces gens-là, parce qu'on donne la parole à la salle. Et c'est l'occasion, justement, de débattre ensemble sur tous ces sujets.
Et justement, en parlant de débat, je me tourne vers vous, Romain Huette. Avec la guerre comme fil rouge un petit peu des dialogues européens au champ libre, vous, Romain Huette, vous animez une table ronde samedi prochain à 16h30. Voici comment vous intitulez cette rencontre « Sortir de la guerre, le monde d'après ». Avant de parler du sujet même de la conférence, parlons peut-être des beaux noms qui seront assis avec vous. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos invités lors de cette table?
Oui, bien sûr. Alors, il y a un premier invité qui est Velibor Čolić, qui est un écrivain bosniaque, qui a été un combattant pendant la guerre en Bosnie et qui a déserté de l'armée et qui écrivait dans les tranchées. D'ailleurs, il se dit lui-même, en plaisantant, qu'il est un peu le Hemingway des Balkans. Et il vient de sortir, enfin, il a sorti en 2023 un très très beau livre qui s'appelle « Guerre et pluie ». Dont je recommande vraiment, et que j'avais d'ailleurs moi-même amené en Ukraine et que je lisais avec les Ukrainiens. Donc ça a été même un objet, son livre a été un objet de médiation avec les combattants avec lesquels j'étais. Bref, donc il y a Velibor Čolić, il y a Anne Le Hérou, qui est une professeure en sciences politiques à Paris et qui est une spécialiste des sociétés post-soviétiques. Et donc il va aussi nous aider à éclairer la façon dont la Russie est engagée dans des guerres depuis évidemment assez longtemps, notamment la Tchétchénie, la Géorgie, etc. Donc, essayer de regarder voilà, qu'est-ce qui fait rupture avec la situation ukrainienne et l'éclairer, évidemment, avec un passé assez, assez récent, en réalité. Et puis, dernière invitée, c'est Juliette Korn. Juliette Korn, c'est une documentariste qui est en train de finaliser un documentaire sur les volontaires ukrainiens. Alors, elle va tout le temps en Ukraine depuis 2022. J'étais même avec elle à Kharkiv. Donc, on s'est croisés, on a pu un peu échanger ensemble. Et voilà, elle va nous raconter comment les volontaires aussi vivent la situation. Et justement, une de ses premières remarques, c'est de dire, bah, parler du jour d'après, c'est pas si évident que ça, ou en tout cas pour les gens qui sont sur place, ils comprennent pas trop finalement le sujet de la table ronde. C'est-à-dire que moi-même, en fait, en essayant de la problématiser, finalement, ça correspond peut-être pas exactement à ce que les gens sont en train de vivre sur place. Et donc voilà, l'idée, ça va être un petit peu de débattre ensemble avec voilà, trois personnages quand même assez différents.
Oui, parce que c'est là où j'allais en venir. Samedi, vous allez discuter autour de cet intitulé, mais aussi cette problématique. Au sortir du tumulte entre mémoire et reconstruction, comment raconter la guerre et penser le difficile retour à la paix ? Effectivement, ça sous-entend quoi cette thématique ? Pourquoi avoir choisi de le titrer comme ça ?
Moi, je crois qu'il y avait vraiment l'idée d'essayer de pas simplement être dans le moment de la guerre, dans le présent de la guerre, qui, je crois, doit être évidemment clarifié, etc. Mais il faut aussi peut-être anticiper et déjà préparer, déjà penser au moment d'après, au jour d'après, c'est-à-dire le retour à la paix, parce que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer assez facilement, le jour d'après n'est pas simplement une grande liesse de joie où chacun se félicite de retourner dans une vie civile éloignée de la violence. En réalité, c'est très très dur le jour d'après, parce que le jour d'après, voilà, il y a des problématiques de reconstruction, il y a des problématiques bien sûr aussi de reconstitution psychique de tout ce que l'on a vécu. C'est le retour dans la vie normale qui doit être, qui doit être réfléchi, à mon avis, dès maintenant. Et je pense que quelqu'un, par exemple, comme Veli Borčević, ou voilà, la question en Bosnie, en Croatie et en Serbie, ça a été des questions hyper importantes et qui nous ont aidés aussi à penser les conditions d'une paix durable, c'est-à-dire d'une réconciliation entre les sociétés. C'est quand même des choses qui vont évidemment se poser pour l'Ukraine. Alors voilà, le problème, c'est qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on est dans des situations très illisibles quant à l'issue de ce conflit. Je pense que l'arrivée de Trump a ajouté, en fait, dans les confusions, au sens où il va régler le conflit, il ne va pas le régler. Enfin bref, il y a quelque chose de l'ordre d'une de pronostic très incertain à chaque fois sur le fin de la guerre. Mais y compris avant Trump, hein, quand il y avait l'offensive ukrainienne, on pensait que peut-être ça allait accélérer la mise en place de négociations. Bref, il y a quelque chose qui est très incertain, qui est un peu hors de notre portée, je crois, même si on peut en faire quelques projections. Mais par contre, en fait, il y a des choses qu'on peut déjà réfléchir maintenant.
Et oui, parce que moi, c'était ça que j'allais vous demander. On est quand même dans une période qui, pour la plupart, elle semble assez floue et incertaine, comme vous disiez. Pourtant, vous parlez de sortir du tumulte, raconter la guerre. Vous pensez que malgré tout, là, on arrive dans une période de fin de conflit Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, la paix aujourd'hui ?
Moi, je pense que ce qui est d'abord envisageable, c'est qu'il y a une urgence, et c'est pourquoi moi je salue cette initiative des Champs Libres, il y a une urgence de raconter la guerre. Ça, c'est extrêmement important, parce que la raconter, c'est aussi empêcher la barbarie, c'est empêcher tout simplement qu'on ne la pense pas. Donc, il y a vraiment déjà ce premier travail, et je crois que faire venir un écrivain, faire venir une documentariste, faire venir une politiste, c'est une façon encore d'essayer de la rendre compréhensible et d'éviter en fait cette idée que bon, voilà, je la comprends pas vraiment, cette guerre en Ukraine, du coup, je m'y intéresse pas vraiment. Et donc, il y a vraiment cette idée de produire du récit. Ça, je crois que c'est très, très important. Et deuxièmement, c'est cette idée aussi de regarder comment elle est vécue tout à fait directement. Alors, soit la guerre en Ukraine, mais pas seulement. Hein. C'est-à-dire, comment est vécu directement le moment historique de la violence. Et là aussi, hein, que ce soit chez Vélibor ou chez Anne Le Hérou, on a des possibilités eh bien, de prendre d'autres situations et d'en analyser les effets, les conséquences, et peut-être là aussi, faire des projections pour l'Ukraine. Les Ukrainiens, en fait, sur le coup, ont mis en place déjà énormément de choses pour faire face, enfin, pour anticiper peut-être la fin du conflit. On a déjà des psys hein, qui accompagnent les combattants ou les anciens combattants. Donc il y a déjà en fait une préparation, une auto-organisation qui est assez fascinante hein, de la société ukrainienne pour justement aussi créer les conditions d'un retour à la paix, mais qui n'est pas d'actualité, hein, mais les conditions d'un retour à la paix quand celle-ci sera effectivement une réalité. Mais par exemple, les Ukrainiens eux-mêmes ne pensent pas tout à fait pour l'instant à ce moment-là en tout cas.
Et d'autant plus qu'on le rappelle, mais vous avez été sur le front du coup en tant que reporter à ce moment-là ?
Alors en tant que chercheur, moi, depuis 2022, mon premier séjour est en avril 2022, donc 2 mois après le début de la guerre, et mon dernier séjour était l'année dernière, dans des brigades de combattants volontaires. Donc pas des militaires de carrière, mais des gens qui ont décidé de prendre les armes et de s'engager en tout cas voilà, de façon générale pour lutter contre la guerre. Donc c'est aussi évidemment une occasion de mettre en relation moi, mes propres expériences que j'ai pu percevoir avec les expériences de nos trois invités qui je pense en fait là encore hein, on a vraiment des points de vue assez hétérogènes, ce qui me semble-t-il va être assez précieux pour essayer de donner de la voilà, de nous aider à nous saisir de ce qui se passe.
Et on va devoir conclure, mais je vous pose une dernière question. Je lis dans Ici Rennes que vous profiterez des dialogues européens pour réaffirmer le rôle de l'Europe. Est-ce que votre conclusion, si on comprend votre présence au dialogue européen comme ça, c'est que l'Europe, elle peut rester droite face à l'empirisme, je sais pas, américain, russe? C'est quoi les solutions aujourd'hui qu'a l'Europe pour vous? Ou le rôle à jouer, en tout cas?
Oh, j'aimerais tellement, en fait, avoir une réponse claire à cette question. Alors, oui, il se trouve que je fais partie de la génération qui a énormément cru à l'Europe. Moi, quand j'avais à peu près votre âge, c'était vraiment un espoir extrêmement considérable. Puis, bon, on a quand même été un petit peu... On a été assez déçus, assez accablés par, finalement, l'histoire de la construction européenne. Et en même temps, ici, avec ce moment de la guerre, c'est aussi l'occasion pour les pays européens de se rapprocher. C'est l'occasion aussi, justement, bien de trouver là aussi où on peut faire unité, là où aussi, bien sûr, hein, où on se sépare, là où, en fait, on ne voisine pas tout à fait, mais pour beaucoup de choses, on voisine, et c'est assez terrible, bien souvent, mais c'est dans les moments les plus terribles de l'histoire aussi qu'on peut retrouver des formes de fraternité. Et ce genre d'initiative où on a des gens de toute l'Europe qui viennent à Rennes pour discuter de ce que peut l'Europe face à la situation actuelle, c'est quand même... ce sont des occasions dont il faut se saisir impérativement, me semble-t-il.
Eh ben, merci énormément de nous avoir accordé ce temps d'échange, Romain Huette et Vincent Pérez, autour des guerres et de la place de l'Europe. Pour rappel, Romain Huette, vous êtes ethnographe et maître de conférences à Rennes 2, Vincent Pérez, directeur adjoint des Champs Libres. Si les enjeux et conflits internationaux vous intéressent, rendez-vous au Champs Libres pour des rencontres, débats et conférences. Vous avez jusqu'à dimanche, mis à part une projection, si je ne me trompe pas, l'événement est gratuit. Au Champs Libres.
Tout est gratuit. Il y a une projection à l'Arvor jeudi soir qui est payante, mais tous les événements sont gratuits au Champs Libres, à retrouver sur lcl.bzh.
Et ben voilà. Et rendez-vous sinon aussi sur le site deschampslibres.fr pour tout retrouver. Nous vous invitons aussi à aller écouter évidemment le podcast Craquer l'époque pour penser les imaginaires politiques. Un petit mot de la fin, Romain Huette, sur ce podcast.
Oui, là on fait une semaine spéciale justement en amont pour les Champs Libres où on a toute une série de personnes qui viennent dans ces événements-là et qui et parfois c'est d'autres qui ne viennent pas. Donc voilà, vous pouvez écouter tous les soirs à 18h. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est Anna Colin-Lebedev. Donc une sociologue née à Moscou et qui travaille sur les pays de l'ex-Union soviétique et sur l'Ukraine depuis le début. Donc c'est vraiment assez passionnant.
À retrouver sur SoundCloud ou le site collateral.media.
Ouais, vous trouvez ça sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer et Collateral, effectivement, est un partenaire.
Merci beaucoup, messieurs.
Merci.
Bonne soirée.
Merci.
6h avant minuit.
C'est mardi et le mardi, dans 6 heures avant minuit, c'est Paravioli, c'est Chronique Fake News. Et ce soir, c'est Estelle qui nous décortique l'actualité et les infox. Afin d'accueillir la COP30, le Brésil, sous la présidence de Lula, réalise une grande autoroute autour d'une zone protégée de la forêt amazonienne. Son nom est l'avenue de la Liberté. Un nom lyrique qui dissimule la destruction des milliers d'arbres et d'écosystèmes essentiels. Lula, qui avait fait la promesse de zéro déforestation d'ici 2030, soutient le projet. Vous avez certainement vu une photo spectaculaire de la forêt amazonienne éventrée par une route avec l'inscription suivante « 10 000 arbres abattus en Amazonie pour la COP30 ». Ce titre a été décliné dans toutes les langues et se trouve partout. Déjà, il se trouve sur TikTok, où, comme d'habitude, une personne partage la fausse information avec en dessous des images d'engins découpant les arbres, tout ça accompagné d'une musique dramatique. Ou bien sur X, avec des publications telles que celle de l'Association des climato-réalistes. Leur poste évoque une hypocrisie verte. Mais pour décrire ça, ils ont utilisé une image de l'AFP datée de 2022. On se demande bien qui est hypocrite. Tout a commencé avec un article de la BBC daté du 12 mars 2025. Celui-ci est intitulé « Préparez-vous, le titre est assez long,
ok ?» Vas-y.
« La forêt amazonienne abattue pour construire une route pour un sommet sur le climat ». Cependant, les organisateurs de la COP30 ont immédiatement démenti ce lien en affirmant que cette autoroute ne fait pas partie des 33 projets d'infrastructure prévus, soulignant ainsi un titre trompeur de la part de la BBC. Selon un communiqué du gouvernement de Pará, ce projet de route a débuté en 2020, bien avant que BLM ne soit sélectionné pour accueillir la COP. Mais il y a bien une autoroute, me diriez-vous.
Mm-hmm.
Oui, il y a une autoroute. Mais l'idée n'est pas née avec la COP, elle remonte à 12 ans.
Ce projet a subi des années de gel en raison de manifestations, de polémiques et de poursuites judiciaires avant de reprendre en 2020. Aussi, il convient de noter que elle ne se trouve pas dans une zone tropicale vierge, mais plutôt dans une zone protégée où l'activité humaine est contrôlée. Et elle a également pour but de désengorger le trafic. Car actuellement, il n'y a qu'une seule route qui permet aux 2 millions d'habitants de se déplacer et celle-ci est embouteillée jour et nuit. Ce cas n'est pas le seul exemple récemment employé pour alimenter le discours climato-sceptique. Selon le think tank Centre d'analyse de la désinformation algorithmique, il faut savoir que la hausse de la désinformation climatique s'est élevée de 267% entre juillet et septembre. Et c'est la raison pour laquelle on peut voir sur les réseaux sociaux de faux reportages avec de faux journalistes dans une fausse BLM, que Bill Gates il est devenu climato-sceptique et que les entreprises elles transmettent des informations erronées sur le bit carbone. Bien évidemment, toutes ces infos, elles sont fausses. Pour éviter de tomber dans le piège des images détournées ou créées par l'IA, un petit conseil, consultez le rapport de la Climate Action Against Disinformation qui offre un kit anti-désinformation qu'on retrouve sur leur site dans la section Reports.
Merci pour tous ces conseils, Estelle. Heureusement que tu es là.
Je sais.
Je crois qu'on a un message sur le répondeur. On va se l'écouter juste avant de se quitter.
Ah, le téléphone.
Téléphone.
Allô ? Allô ?
Syllab, la radio sauvage.
Oui, bonjour à tous, c'est Sylviane. Je voulais vous dire bravo encore d'avoir programmé Émilie Quinquis en musique et vous avertir, vous prévenir que nous avons le bonheur de savoir que le clip de Blaz Anne Hollen qui a été fait par Arthur Mercier, Perle Hort et Hugo Marchand et toute l'équipe a reçu un prix au festival Chant contre Chant, un grand coup de cœur pour ce clip, et puis bravo de l'avoir programmé, peut-être de nous le repasser, même sans me faire plaisir. Bonne journée les cœurs, à tout bientôt sur 6h avant minuit, et bravo encore.
Merci Sylviane, grosse bise à toi, et puis oui, n'hésitez pas à profiter de la programmation musicale de qualité de Syllab toute la journée et toute la nuit. Laissez-nous un message comme Sylviane, je vous rappelle le répondeur, c'est le 02 30 96 25 35. On attend bah, vos retours sur nos interviews, nos reportages, vos idées de sujets, dites-nous ce qui se passe près de chez vous. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'il y a un jeu concours en ce moment. On vous offre une place pour le spectacle An Immigrant Story de Vanjiru Kamuyu. Ça se passe le mercredi 3 décembre prochain à 19h au Triangle, la cité de la danse rennaise, en duo avec une danseuse interprète en LSF, langue des signes française. La chorégraphe se fait messagère d'une histoire de l'humanité. Leur mission dansante consiste à révéler des frontières et à les faire tomber. Artiste associée du CCN de Nantes, Vanjiru Kamuyu mêle danse, théâtre et chant pour évoquer son propre parcours migratoire, mais aussi le récit d'autres personnes. Donc pour jouer et pour gagner, vous avez besoin d'un mot de passe. Autour de la table, vous vous rappelez du mot de passe ? Non, c'est LSF comme langue des signes française. Donc rendez-vous sur c-lab.fr pour entrer le bon mot de passe et pour être tiré au sort. Merci Roman et Maud pour la technique aujourd'hui et à demain dans 6h avant minuit.
Sauvage.
Quelle heure est-il ?
6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h sur Syllab, la radio sauvage.